Bonjour à tous. Entrons cette semaine dans le monde de Nancy Picard avec L'Anneau de vérité, un roman policier à suspense qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne. Nancy Picard est née en 45 à Kansas City. Elle est considérée comme une surdouée du suspense. Lauréate de nombreuses fois, elle a reçu de nombreux prix de la littérature policière. Elle est reporter, écrivain bien sûr, et éditrice reconnue, et partage son temps entre le Kansas et la Floride. Il existe à ma connaissance une dizaine de ses romans traduits en français, dont la série Mary Lightfoot, dont est issu le roman du jour, L'Anneau de vérité. Mary Lightfoot est écrivain spécialisé dans les récits de meurtre. Elle vient de terminer son dernier ouvrage concernant le meurtre de la femme d'un pasteur dont le mari est reconnu coupable et condamné à la chaise électrique. Sa complice, elle, est relaxée, lavée de tout soupçon faute de preuves tangibles et rendue à sa vie. Mais Marie n'est cependant pas satisfaite de son ouvrage. Il y a quelque chose qui la tracasse, mais elle ne met pas le doigt dessus. Elle décide donc d'envoyer son épreuve à son éditrice pour lecture. En attendant, elle se repasse l'histoire en boucle. C'est pourtant simple. Bob Wing, pasteur veuf en première noce, épouse Susanna après quelques mois de douleur. Dans son village, il est connu pour son engagement contre la peine de mort et particulièrement contre le verdict amenant à la chaise électrique Stephen Orbach. Il serait l'assassin d'une jeune fille récemment émancipée de l'autorité exacerbée de sa mère. Il faut dire que ce Stephen n'est pas un saint. Il a déjà tué sa mère lorsqu'il avait 15 ans. Et tout le monde sait qu'un tueur reste un tueur. Donc, même si les preuves manquent, pas de doute sur sa culpabilité. Mais je m'égare, enfin, si peu. Revenons à notre pasteur. Tout le monde est persuadé, malgré son récent mariage, qu'il a craqué pour la nouvelle arrivée. Artemis, jeune divorcée, au compte en banque bien garni et belle comme un ange divin. Pourtant, elle aussi vient de se marier avec Stuart McGregor, qui vient également d'entrer dans la communauté évangéliste. Comment douter que ces deux-là, Bob et Artemis, ne soient pas amants? Trois femmes de l'église ont surpris une conversation téléphonique qui ne laisse pas la place au doute. Donc, quand Susanna disparaît, que l'alerte est donnée et que deux fillettes qui faisaient les 400 coups annoncent avoir découvert le corps d'une femme dans une maison abandonnée et qu'il s'avère que la victime est bien Susanna, les policiers chargés de l'enquête ne s'attardent pas trop et embarquent le pasteur et sa maîtresse. Mais les preuves sont minces par rapport aux idées reçues et aux intimes convictions. Qu'à cela ne tienne, le jugement a lieu, les avocats et procureurs se démènent et le pasteur est condamné à mort. Artemis, bien que soupçonnée de complicité de meurtre, ne peut être que relaxée compte tenu de l'absence de preuves. Et c'est une succession de questionnements et l'arrivée dans les mains de Mary Lightfoot d'un sac de marin rempli de preuves que les fillettes avaient cru bon de garder par-devers elles comme un butin qui relance l'écrivain dans la recherche de la vérité. Dans la nuit, je me réveille en plein cauchemar, obsédée par une pensée encore plus écœurante. Et si nous nous étions tous trompés? Et si ces deux-là n'avaient commis aucun crime? Et s'ils étaient innocents? Ils n'ont cessé de le clamer, mais personne ne les a jamais écoutés. Et si c'était un juste qui se retrouvait enfermé dans le couloir de la mort? Et si c'était une sainte qui se barricadait dans sa maison, sans plus oser en sortir, clouée au pilori par ses anciens amis et par les gens comme moi? Je m'assieds dans mon lit en m'avisant que la réponse à ces questions se terre entre les pages de mon propre livre et que c'est ce qui me tourmente depuis vendredi. Tout à coup, les admirables qualités d'Artemis McGregor et de Bob Wing m'apparaissent au grand jour, m'obligeant à les considérer au-delà de tout préjugé. Et puis, il n'existe aucune preuve de leur liaison, à part la fameuse conversation téléphonique et, peut-être, le sac de marin dont il n'a pas été établi qu'il appartenait à l'un ou l'autre. Tout cela est à mettre en balance avec les éléments qui ont manqué à l'accusation. Rien, ni personne pour les avoir jamais surpris en situation compromettante, pas le moindre soupçon d'infidélité de part et d'autre. Si cet homme était le coureur pour lequel on l'a fait passer, n'existerait-il rien qui puisse l'en incriminer? Quand je pense à son dévouement, au respect qu'il a pour la vie, à son combat contre la peine de mort... Maintenant que j'ai laissé ces considérations pénétrer mon esprit, je suis bien obligée d'envisager l'idée que quelqu'un d'autre a pu avoir placé l'arme du crime dans la maison de Bob Wing. Tant de gens y ont accès. De plus, comment un homme qui aurait pris si grand soin de ne pas laisser une empreinte, un homme qui aurait si bien caché ses vêtements ensanglantés et ceux de Susanna, qu'on ne les a jamais retrouvés, comment un tel homme aurait-il laissé tant de marques sur l'arme du crime ? Son avocate a soulevé quelques-uns de ces points dans ses conclusions, mais les jurés n'en ont rien retenu. Si elle avait pu désigner un autre suspect, n'importe qui, sans doute aurait-elle été plus crédible. Le jury est allé délibérer en son âme et conscience, et l'ensemble des preuves sont restées patentes. Toutes désignaient le révérend Robert Wing. Je n'aurais pas trop de mal à les réduire à néant. Néanmoins, j'ai plus de mal avec la conversation téléphonique. « Tu as déjà une épouse et c'est moi !» avait hurlé Susanna. Si Tony a raison, si ces trois femmes disaient la vérité, cela veut dire que Bob Wing avait une liaison avec Artemis, donc elle et lui ont assassiné Susanna. En atténuant mes préjugés, je me suis offert une nuit de sommeil et un certain apaisement. Résultat, je me réveille, au matin, reposé mais plus décidé que jamais à rendre justice à la mémoire de Susanna. Je ne vois que deux anomalies qui me tourmentent depuis que je me suis penchée sur cette affaire et sur la vie de ces gens. D'abord, l'amour. Ensuite, les anneaux. Ah, ces anneaux. Un trouvé sur les lieux du crime, les huit autres récupérés par les fillettes et rapportés à Marie. Mais pourquoi autant d'anneaux de mariage? C'est bizarre. Quelque chose ne colle pas. Et, réécoutant les cassettes de ses interviews, elle trouve une piste que sa toute jeune collaboratrice a effleurée par pure curiosité. Mais cela concerne le meurtre perpétré par Steven Horbach. Ce tueur est finalement innocent. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais qui donc a tué à sa place? Et pourquoi le pasteur Bob Wing, qui se vouait corps et âme pour tenter de faire libérer ce Steven, est maintenant, lui aussi, dans le couloir de la mort? Cet imbroglio policier se dénoue peu à peu au fil des pages et l'on découvre finalement que c'était un couple assorti, aussi malfaisant l'un que l'autre, ne reculant devant aucun mauvais coup. Si le démon s'était incarné en deux êtres, mâle et femelle, il n'eût sans doute pas atteint de tels degrés de machiavélisme. Dès leur première entrevue, ils éprouvèrent une irrésistible attirance mutuelle. Selon ses dires à lui, beaucoup plus tard, chacun capta sa chacune. Ce fut comme si un court-circuit les traversait. S'agissait-il d'un coup de foudre? Comme on dit, le diable ou la diablesse reconnaîtra les siens. Quelque part, dans les plus obscurs tréfonds de leur confiance, ils se sont mis à nu. Amants sataniques, jumeaux astraux, âmes sœurs. Chacun, dans l'œil de l'autre, a retrouvé cette lueur ancienne, pernicieuse et intimement familière. Très vite, ils ont su qu'ils pourraient accomplir n'importe quoi ensemble, même la prouesse d'un meurtre, surtout la prouesse exquise d'un meurtre.